Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour. L'interview du jour.
Bonjour, ici l'interview sur RDIWA. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Marie-Thérèse Michel-Dansac. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ici pour nous parler des canaux de Livron, principalement. Et Marie-Thérèse, donc, vous donniez récemment à Livron une conférence sur les canaux de Livron et leur histoire et leurs problématiques, entre guillemets. Et ce titre, c'était « Ce que Livron doit à ses canaux ». Alors, vous avez été surprise, vous m'aviez dit, de l'intérêt du public pour ce sujet.
Oui, parce que d'abord j'ignorais que l'existence de canaux ADI et je me suis dit que de toute façon la problématique ADI, vu la différence de situation au long de la Drôme, la problématique ADI n'était sans doute pas la même que celle de Livron. Voilà pourquoi, mais suivant vos explications, je me suis dit qu'après tout... La réflexion qui est la nôtre pourrait peut-être être utile aussi aux personnes qui habitent Die ou sa région. Voilà. Et ce que je voulais montrer aux Livronnais qui râlent toujours après leurs canaux parce que eux, ce qu'ils en ressentent, c'est qu'ils sont obligés de les nettoyer, tout au moins pour la partie de canal qui traverse une propriété privée. Et bien, le propriétaire de cette parcelle est obligé de nettoyer son canal. Or, on a institué des périodes de coupure d'eau pour permettre le nettoyage des canaux. Et en ce moment, on est en pleine période de coupure d'eau, donc en période de mauvaise humeur de la part de certains propriétaires de terrain où passe un canal. Donc c'était l'objet de la conférence, montrer que malgré les désagréments que peuvent causer les canaux lorsqu'il faut les nettoyer, on a tout intérêt à non seulement préserver ces canaux, je vais dire pourquoi tout à l'heure, mais aussi à valoriser les vestiges de ce que les canaux ont permis de créer à Livron. Et je dis dans cette conférence que Livron, la ville telle qu'elle est aujourd'hui, doit tout à ses canaux, en ce sens que c'est grâce à l'énergie de l'eau amenée par les canaux que Livron a pu se développer comme elle est développée actuellement. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on peut faire un lien avec les manifestations qui vont être organisées sur les villages perchés. Jadis, Livron, ça se résumait, au bourg perché, c'est-à-dire un millier, 1500 au maximum d'habitants dans le bourg perché. Et on s'aperçoit qu'entre le XVIe siècle et le début du XIXe, la plupart des habitants sont descendus dans la plaine. Pourquoi ? Parce que c'est là que l'eau des canaux arrivait, et c'est là que s'est constituée une ville qu'on peut dire industrielle grâce à l'industrie de la soie. Et puis en plus, l'eau des canaux a permis de fertiliser la plaine, a permis d'irriguer, donc bien sûr, mais a permis aussi de drainer la plaine. Moyennant quoi, la production agricole a beaucoup progressé au cours du XIXe siècle, pour faire une ville qui a maintenant pas loin de 9000 habitants et qui n'est pas consciente de la richesse qu'elle possède en termes de culture, parce qu'on a, on est devenu une ville ouvrière avec la mentalité ouvrière, l'habitude du travail, et on est devenu une ville où politiquement on a cœur à développer une politique sociale pour le bienfait de l'ensemble de la population. Et ça, je n'hésite pas à dire que si on n'avait pas eu de canaux, on n'aurait pas eu le développement ouvrier et usinier qu'on a eu au 18e et au 19e, et donc on ne serait pas imprégné de cette culture ouvrière qui, pour moi, est fondamentale dans le caractère des Livronnais. Est-ce que vous voulez davantage d'explications? Parce que j'ai résumé ça très... Très brièvement.
On va peut-être en revenir, d'autant que vous étiez, lors de vos fonctions, chef de cabinet du maire. Donc vous avez une certaine expérience des canaux de Livron, vous avez dû le gérer
oui.
Nombre de fois.
Oui.
Et est-ce que vous ressentez une évolution du mécontentement de la population après ces canaux ou ça a toujours été?
Non, ça n'a pas toujours été parce que... Il y a encore une cinquantaine d'années, les habitants de Livron vivaient encore avec leurs canaux. En 50 ans, la population a beaucoup changé. Ceux qui ont la mémoire de l'usage de l'eau dans les canaux savent ce qu'il faut faire pour conserver leurs canaux et ils savent ce qu'ils doivent aux canaux. Par contre, les nouveaux habitants, qui achètent une maison avec un petit morceau de terrain. Dans la plupart des cas, ils ignorent la présence d'un canal dans leur terrain. Ce n'est pas pour connaître les servitudes qui sont liées à la traversée d'un canal sur un terrain. Et en fait, comme en cette occasion, de même qu'en ce qui concerne les inondations du Rhône, on le sait bien, la mémoire des inondations, la mémoire des méfaits que peuvent créer une rivière, un fleuve et même les canaux, cette mémoire s'estompe. Et au fur et à mesure que il n'y a pas de problème, on oublie qu'il pourrait y avoir des problèmes et qu'il faut continuer à faire de la prévention à l'égard du risque. Alors je sais bien qu'une inondation à cause des canaux, ça n'a rien à voir avec une inondation due au Rhône. En hauteur d'eau, ça n'a rien à voir. Mais quand vous habitez dans un lotissement et que tout d'un coup, suite à un orage, copieux, certes, vous voyez monter l'eau dans votre maison, et ça peut être 10 cm, ça peut être 20 cm, il y a de quoi affoler tout le monde si les gens ne sont pas prévenus. Et surtout, que c'est généralement parce qu'on n'a pas entretenu les canaux. Alors que le Rhône, c'est beaucoup plus compliqué de prévenir les inondations du Rhône. Mais par contre, faire de la prévention des inondations qui risquent de venir des canaux, ça c'est relativement facile à faire. Voilà.
Au départ, ces canaux ont été construits en quelle période?
Alors le premier canal, il est très, très ancien. Hein. Je disais avant-hier que la première chose que le canal a apportée aux Livronnais, c'était les vieux Livronnais, c'était les Livronnais du Moyen-Âge. Hein. Depuis 600 ans, les Livronnais ont eu la chance de pouvoir faire moudre leurs grains chez eux. Parce que le premier moulin de Livron, il date du XIIe siècle. Et donc c'est à cette époque que le canal, le premier canal, qu'on appelle d'ailleurs toujours le canal des moulins, il a donc été creusé au cours du XIIe siècle. Est certainement recreusé au XIIIe ou XIVe, mais le canal initial, il date du XIIe siècle. Et ce canal permettait d'amener l'eau de la Drôme, de la rivière Drôme. Il descendait le long de la départementale 93, par contre, c'est celle qui va d'Alex à Livron, en longeant la rivière. Et arrivé à ce qui est maintenant l'actuelle Nationale 7, au pied du pont sur la rivière Drôme, sur la Nationale 7. Là, le canal fait un coude vers le nord pour alimenter ce qui est devenu les grands moulins de Livron. Et le premier moulin de Livron a été construit à la fin du XIIe siècle. Voilà. Il y en a eu plusieurs qui se sont construits à peu près au même endroit. Voilà l'histoire, mais très brève, encore une fois, de ce premier canal. Et ce qui est intéressant, c'est que nous avons les chartes, puisque ça s'appelait comme ça à l'époque, les chartes donnant l'autorisation aux propriétaires du moulin de creuser le canal pour acheminer l'eau de la Drôme au moulin. Donc au moulin, on l'appelait à l'époque le moulin de la Sablière. Et ça, c'est extrêmement important parce que nous avons des droits écrits dont les textes se trouvent encore chez un notaire. J'insiste là-dessus, vous allez voir pourquoi. En 1566 a été prise une ordonnance décidant de l'incessibilité du domaine public fluvial. Ce qui veut dire que si nos droits avaient été reconnus postérieurement à 1566, on n'aurait pas eu de droit. Parce qu'on n'aurait pas eu le droit de prendre l'eau dans la rivière Drôme, qui était considérée comme du domaine public fluvial. Or, nos droits résultent d'actes successifs, d'ailleurs, bien antérieurs à 1566, ce qui veut dire que ces droits sont toujours valables, alors qu'on nous les conteste à l'heure actuelle.
Ça ne regarde que le Livronnais, hein, ce que vous énonciez, ou alors c'est
l'ordonnance de 1566, c'était une ordonnance royale.
Donc le Diois est concerné aussi par cette ordonnance.
Tous les droits d'eau accordés sur la rivière Drôme, postérieurement à 1566, sont contestables.
Pas caduques,
contestables.
Alors, il y a eu certainement la constitution de ces canaux à Livron pour un apport moteur de la production locale, c'est-à-dire, la minoterie, mais aussi peut-être d'autres activités.
Si vous parlez de minoterie, je pense que vous ne serez pas vraiment entendu par la plupart des personnes qui vivent le long de la Drôme. Les canaux était lié à la création d'un moulin. Et c'était toujours le propriétaire du moulin qui faisait construire le canal, puisque le canal était le seul moyen pour lui de mouvoir les roues du moulin qui actionnaient les meules qui écrasaient le grain. Donc le propriétaire d'un moulin, il fallait bien qu'il le fasse tourner, son moulin. Et donc la meilleure façon de le faire tourner, à l'époque, au Moyen-Âge, mais de toute façon, les Grecs, les Perses ont bien fait la même chose, et 600 ans avant Jésus-Christ quand même, hein, il n'avait pas d'autre moyen que d'acheminer l'eau vers son moulin. Et pour acheminer l'eau, il n'y a pas 36 solutions, il faut creuser un canal. Voilà. Donc c'est le propriétaire du moulin qui décide, s'il le peut, de creuser un canal. Donc il est propriétaire du moulin et propriétaire du canal. Par contre, l'eau, ça a toujours été considéré dans toutes les civilisations comme un bien commun. L'eau ne lui appartient pas, mais il a la possibilité, évidemment, d'accorder des droits sur l'eau en certaines quantités, certains jours, à condition que ça ne gêne pas le fonctionnement de son moulin. Parce qu'il ne faut pas oublier, encore une fois, qu'il est propriétaire du moulin, ça veut dire qu'il l'a construit, mais il est aussi propriétaire du canal. Et sans canal, pas d'énergie hydraulique, voilà. Et donc, on le voit dans l'histoire des canaux qui arrivent à Livron, très rapidement, étant donné que ce canal, le canal d'amener de l'eau au moulin de Livron, ça fait à peu près 6 km. Naturellement, on traverse des zones qui étaient à l'époque encore vierges de toute culture et vierges de toute habitation, bien sûr. Et bien naturellement, les personnes ont vu qu'elles pouvaient obtenir de l'eau en demandant le droit de prendre de l'eau dans le canal du moulin, et à condition qu'elles fassent des dérivations qui doivent être autorisées par le propriétaire du canal, bien sûr. Et c'est ainsi que tout le long du canal du moulin, et bien les terres irriguées se sont multipliées, et donc la production agricole.
Et cette eau, même pour les terres agricoles, est-ce qu'en finalité, elle retournait dans ce canal ?
Alors, elle ne retourne pas dans le canal. Bon, en ce qui concerne l'irrigation, qui n'était pas l'utilisation prioritaire, hein, j'insiste là-dessus, il faudra revenir d'ailleurs sur l'utilisation prioritaire de cette eau qui sillonne Livron. Lorsqu'il s'agit d'irriguer les terres, bon, on fait une dérivation du canal. Et puis l'eau, elle s'écoule dans les champs. Alors il est bien évident que cette eau qui sert à l'irrigation, elle sert prioritairement à humidifier les terres pour les fertiliser. Et le trop d'eau, eh ben, ça s'écoule dans la nappe. Ça, c'est l'usage irrigation. Alors, à l'heure actuelle, et surtout au 19e siècle d'ailleurs, et au début du 20e, dans le centre-ville de Livron, là où les canaux traversent le centre-ville, les jardins, eh ben, naturellement, les propriétaires de ces jardins ont utilisé l'eau du canal pour irriguer ou arroser plus exactement leur jardin. Mais là, c'est un peu différent parce qu'ils utilisent l'eau qui est dans le canal, qui traverse ou qui longe leur propriété. Donc, mis à part le peu d'eau qui peut s'imprégner dans la terre et qui va finalement dans la nappe, eh ben, l'eau du canal, elle traverse la propriété, donc elle reste dans le canal, quoi. Par contre, la principale utilisation de l'eau des canaux, parce qu'il y a eu d'autres canaux, il y a ce canal des Moulins qui est le canal initial. Le canal des Moulins a connu évidemment de nombreuses dérivations. On parle de dérivations. Et il ne faut pas seulement parler du canal d'Amené qui amène l'eau depuis la Drôme et depuis le Moulin d'Alex, parce qu'on a eu des droits à l'eau de fuite du Moulin d'Alex. Le canal d'Amené, c'est l'eau qui est amenée jusqu'au Moulin. Mais sort du Moulin l'eau qu'on a utilisée pour faire tourner la roue, qui fait tourner la meule, mais il faut bien que cette eau, elle sorte quelque part. Et elle sort dans ce qu'on appelle le canal de fuite. Et le canal de fuite du canal des Moulins de Livron, le principal canal de fuite, il fait aussi 7 km. Et ce canal de fuite, il permet de rejeter l'eau du canal des Moulins, alors celui-là, dans le Petit Rhône. Donc de toute façon, ça retourne à l'eau, hein. Un autre canal a été construit, en gros, parallèlement au canal des Moulins, au XVIIIe siècle. Il était principalement destiné, initialement, à l'irrigation, mais ensuite, ça a été un des principaux canaux usiniers, je reviendrai sur ce terme tout à l'heure, de Livron au XIXe siècle. Et là, ce canal, on l'appelle le canal de 14 pouces, il se rejette également dans le Petit Rhône. Et il y a un troisième canal qui longe en quelque sorte la Drôme à partir du pont de la Nationale 7. Et celui-là, il rejette son eau dans la rivière Drôme. Mais toute l'eau des canaux, elle repart soit dans la nappe, après irrigation, après arrosage, soit elle repart au fleuve ou à une rivière. Hein. Ce n'est pas de l'eau qui est perdue, bien évidemment. Quand on sait que le canal, à l'heure actuelle, les 55 km de canaux de Livron, ils sont alimentés par le canal des Moulins. Donc, on n'a pas 36 prises d'eau, il n'y en a plus qu'une. Et l'eau, elle est prise théoriquement, parce que maintenant, on ne l'a même plus, cette prise d'eau, théoriquement dans la Drôme. Et pas plus tard qu'au mois d'août dernier, on a fait des mesures de débit d'eau dans nos canaux, dans notre canal des Moulins, à l'amont de Livron, donc là où il est en plein débit, si j'ose dire. Le débit atteignait 160 litres seconde. Quel est le débit de la rivière Drôme en plein mois d'août? Je l'ignore. Mais il est bien évident qu'il doit falloir multiplier par 10 ou même par 100. Moi, je fais une comparaison avec le Rhône. Je connais mieux le Rhône en termes de débit que la Drôme. À l'heure actuelle, le Rhône, qui n'est pas bien haut en ce moment, il est quand même à 1500 mètres cubes seconde. Mètres cubes seconde! Nous, on a 160 litres. Et pour faire un mètre cube d'eau, il faut 1000 litres. Alors ça vous donne une idée de ce qu'on prend à la rivière, c'est vraiment infime. Il n'empêche que ce peu nous est contesté. Mais on a besoin d'une alimentation. Alors, on était alimenté jusqu'à peu près 2006, 2010, je ne sais pas très bien. On était alimenté par une prise d'eau dans la rivière Drôme, sur le territoire de la commune d'Alex, justement à Alex. Ça s'appelait, ça s'appelle toujours d'ailleurs, même si on ne peut plus prendre d'eau dans ce seuil, ça s'appelait le seuil des pus, P-U-E-S. Et on partageait cette eau avec le syndicat d'irrigation d'Alex Montoison. Bon, pour différentes raisons sur lesquelles je n'ai pas envie d'épiloguer, ou je ne peux pas épiloguer, on ne peut plus prendre d'eau à cet endroit. Donc on se contente de ce qu'il y a encore, même si c'est très peu, dans nos canaux. Et à mon avis, ce sont des résurgences qu'on appelle les frédières. En fait, le canal est alimenté par des résurgences de la Drôme, si vous voulez, par des résurgences de la nappe. Et par un ruisseau, on ne peut pas appeler ça une rivière, intermittente, qui s'appelle le ruisseau des Vaures. Et je vous dis, en plein été, ça se limite à 160 litres seconde. Donc, j'estime qu'on ne peut pas quand même nous contester ça. Voilà.
Ces canaux, vous disiez qu'ils étaient sous la responsabilité de certains propriétaires,
mais, oui.
Mais aussi de collectivités, parce qu'il y a
non.
peut-être des territoires...
Jadis, non.
Non, jadis, non. Mais actuellement, aujourd'hui, est-ce que c'est toujours pareil ou il y a une différence?
Ça nous amène à parler, alors, je vous l'ai dit et je le répète, il ne faut jamais oublier que c'est le propriétaire d'un moulin qui a besoin d'eau pour faire tourner son moulin qui décide donc de construire un canal. Il est donc propriétaire du canal et il a des droits à l'eau qu'il trimballe dans son canal. Bon.
Et ce, depuis des générations donc.
Écoutez, c'est simple. Pour construire un canal, il faut avoir... de quoi l'utiliser. On ne construit pas un canal pour se faire plaisir, à mon avis. Donc, on a besoin d'eau. Pour amener l'eau, il faut construire un canal. Pour construire un canal, il faut quand même avoir quelques idées de la manière dont coule l'eau, de la pente. Il faut avoir des connaissances techniques. Il faut mobiliser des moyens financiers. Il faut mobiliser des moyens humains. Donc, ça coûte quelque chose. Mais c'est rentable pour celui qui construit le canal, puisque c'est cette eau... et la dynamique de l'eau, enfin l'hydraulique, quoi, tout simplement, qui va alimenter son moulin, grâce auquel il gagnera des sous. Bon. Alors, bien sûr, il n'y a pas que des moulins faisant de la farine qui ont requis la nécessité d'avoir des canaux. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ensuite, l'usage des canaux s'est diversifié en fonction de l'évolution technique de l'ensemble de la ville, de l'ensemble du pays. Et donc, au XVIIe siècle, c'est là où a commencé le développement de l'industrie de la soie, et donc la sériciculture, qui nécessitait l'installation d'usines, qu'on a appelées des moulinages et des filatures, mais pour faire tourner les moulins, des moulinages ou des filatures, c'est pareil, il fallait de l'énergie. Et donc, les canaux existants ont été utilisés, bien sûr, on a continué à les utiliser dans les moulins à farine, mais au fil du canal, il y a des entreprises qui se sont construites, qui se sont installées, et qui étaient d'abord, dans l'ordre de création, des filatures et des moulinages. Et il y en a eu beaucoup à Livron, j'en dirai quelques mots tout à l'heure. Mais il y a eu aussi toute l'industrie du métal nécessaire pour les agriculteurs, c'est-à-dire la petite métallurgie pour fabriquer des bêches, pour fabriquer des socles, pour fabriquer des arrères. Et on a eu une industrie métallurgique très développée à Livron, mais qui s'est installé également sur les canaux parce qu'on utilisait l'énergie hydraulique. Et on a relevé, je crois que Jean disait, entre le XVIIe siècle, la première entreprise de moulinage qui a été construite, c'était, vous ne connaissez pas suffisamment le coin, mais enfin, c'était quand même à 2 km de la ville de Livron, installé sur le canal des Moulins, dans cette espèce de défilé qui est sur la Drôme, bien sûr, enfin au bord de la Drôme, entre Livron et Alex. Et là, c'est un domaine qui est assez connu dans la région, ça s'appelle le domaine du Brézème. Mais mis à part ce domaine du Brézème, qui a été une filature, un moulinage jusqu'en 1960, il y a de nombreuses usines textiles, mais textiles de soie, qui se sont construites sur le canal des Moulins et sur le canal de 14 pouces, qui ont fait la richesse de la ville parce que, naturellement, toutes ces usines ont employé une main-d'œuvre très importante pour travailler la soie et surtout pour élever les vers à soie. Il faut beaucoup de place, mais il faut aussi beaucoup d'ouvriers. Enfin, surtout d'ouvrières, d'ailleurs. C'était plutôt les femmes qui travaillaient là-dedans. Ce qui a donné naissance, encore une fois, à une culture ouvrière qui imprègne très fortement les Livronnais. Et qui, naturellement, a développé, a surélevé, enfin, le mot n'est pas élégant, mais le niveau de vie des Livronnais a augmenté dans des proportions incroyable.
Je peux rappeler aussi la hausse de démographie lors
évidemment.
De cette période
évidemment.
Qui n'existe plus aujourd'hui. Hein.
Mais je vais vous donner quelques chiffres pour revenir au village perché qui était le village d'origine. En 1635, donc au XVIIe siècle, avant les premiers développements des usiniers, il y avait seulement 13,8% des Livronnais qui vivaient dans la plaine. En 1841, donc deux siècles plus tard, il y avait 45% des Livronnais qui vivaient dans la plaine. Avec également, sur une hausse de la population qui était extrêmement sensible, puisque en deux siècles, la population a augmenté en chiffres de 2000 personnes. Mais pourquoi ? Parce que la plaine, elle était utilisée par personne. À partir du moment où on a construit le pont sur la Drôme, où on a amené l'eau dans la plaine, on a construit des usines, et c'est là que les Livronnais se sont installés. Alors, des commerces, déjà, pour commencer. Mais ensuite, tous les ouvriers, toutes les ouvrières qui travaillaient dans ces usines, ils se sont installés là. Et je voudrais dire que la plus grosse entreprise de Livron, encore à l'heure actuelle, elle s'est installée à l'emplacement des Grands Moulins. Et c'est Rhône-Poulenc, donc c'est pas rien. Et c'est Rhône-Poulenc qui s'est installé là en 1917 et qui a eu un énorme laboratoire de fabrication donc de produits pharmaceutiques, Specia, je suppose que tout le monde en a entendu parler. Et dans les années 60, à Specia, à l'emplacement des Grands Moulins, on ne faisait plus du textile, hein, on faisait encore une fois des médicaments. Il y avait quand même 600 ouvriers, avec un salaire qu'on n'avait jamais vu à Livron. Rhône-Poulenc, Specia, ils payaient bien, ils continuent à bien payer d'ailleurs. À l'heure actuelle, il y a beaucoup moins de monde. Bien sûr, la mécanisation est passée par là. Mais il y a quand même encore 140 personnes qui travaillent dans cette usine Specia. Et dans les filatures et les moulinages, à la fin du 19e au début du 20e, il y avait quand même à Livron 8 filatures et moulinages qui employaient vraisemblablement à peu près entre 400 et 500 ouvriers. Donc vous voyez ce que ça donne en termes de niveau de vie et en termes économiques et comme changement en termes de mentalité. Parce que ces filatures et ces moulinages, elles n'avaient pas suffisamment de main-d'œuvre locale. Il a fallu qu'elles fassent appel de la main-d'œuvre. Alors, ardéchoise, je ne veux pas dire que les ardéchois sont les étrangers, mais étrangers à Livron. Mais on a été obligé d'aller plus loin et on a recruté des ouvrières principalement italiennes. Et ces Italiennes, pour une bonne part d'entre elles, sont restées dans la région. Elles ont fait souche dans la région, ce qui, à mon avis, a modifié sensiblement la sociologie de Livron, quoi. Pour moi, Livron est devenue une ville d'ouverture et d'accueil. Certes, on accueillait des gens qui bossaient, mais qui ont en échange, apporter quelque chose à la commune qui est incommensurable par rapport à ce qui existe maintenant, quoi.
Et aujourd'hui, alors, ces canaux de Livron, qu'en est-il et quelles sont leurs perspectives, puisqu'ils sont décriés par une partie de la population Que voyez-vous pour l'avenir?
Moi, je montre aux Livronnais qu'ils ont tout intérêt, non seulement à conserver leurs canaux, parce que les canaux à l'heure actuelle, qui ne servent plus à alimenter les usines, bien entendu, sauf une. Ah oui, je tiens à dire qu'il reste une usine, c'est une marbrerie, qui continue à faire fonctionner sa roue à aube. La roue à aube, elle ne fournit pas toute l'électricité dont a besoin la marbrerie, mais elle en fournit encore une partie. Et on peut voir encore à l'heure actuelle fonctionner une roue à aube. Je trouve que c'est quand même intéressant. Donc c'est la partie de vestiges historiques, oui, je ne pense pas qu'on puisse les appeler autrement, qu'on peut parfaitement valoriser, parce que indépendamment de cette marbrerie qui fonctionne encore partiellement avec sa roue, on a au moins 7 roues à aube qui ne fonctionnent plus, mais qui sont vraiment des roues à aube très intéressantes. Et je ne suis pas sûre qu'il existe beaucoup de villes ou villages dans nos régions qui possèdent encore autant de roues à aube qui fonctionnaient il n'y a encore pas si longtemps que ça. On a une taillanderie. Alors la taillanderie, c'est une forge spécialisée dans les outils tranchants. Bon, certes, il lui est arrivé un accident récemment, le toit de la taillanderie s'est effondré. Mais l'intérieur de la taillanderie est encore dans l'état où l'a laissé son dernier ouvrier en 1971. On peut encore voir le soufflet, on peut encore voir l'enclume, on peut encore voir la turbine, enfin bon. Et tout ça a été actionné par l'eau du canal, par l'intermédiaire de 3 roues différentes. Je me dis que tout ça, ça peut être valorisé sur le plan touristique tout de même. Et puis, la première chose à faire, encore une fois, avant de parler de valorisation touristique, moi je trouve que les Livronnais ont de quoi être fiers de ce qui leur reste de l'industrialisation liée aux canaux. Et ils peuvent être aussi satisfaits quand ils voient qu'on remet en état un instrument de travail aussi beau, aussi fort que cette taillanderie dont je viens de vous parler. Mais ils ont mieux à faire dans leur intérêt direct. Il faut qu'ils entretiennent leurs canaux. Sinon, à chaque fois qu'il pleut, eh ben ceux qui habitent à côté des canaux, ils seront inondés. Et voilà, c'est tout simple, quoi.
Et ça consiste en quoi, l'entretien? Renforcer les parois ou alors aussi dégager le lit?
Ah ben c'est surtout dégager. C'est ça le gros problème. Les canaux, si on ne les entretient pas, bon, il y a toujours un peu d'eau dedans, même si on en a de moins en moins, il y a toujours un peu d'eau dedans. Donc il y a beaucoup d'herbes, il y a beaucoup de canisses, il y a des branches d'arbres qui tombent. Et ça, c'est sans rien dire, les indélicatesses commises par tout le monde, les bouteilles plastiques, les canettes de bière, les déchets de jardin qu'on ne sait pas vider ou à la déchetterie, et on le met dans le canal. Ah oui, mais et c'est ce que je disais hier, j'ai beaucoup insisté là-dessus, il ne faut surtout pas créer des bouchons qui soient constitués de n'importe quoi, créer un bouchon sur le canal qui traverse la propriété de quelqu'un. Il ne faut pas qu'il y ait de bouchon sur le canal, parce que s'il y a un bouchon sur un canal, c'est simple à comprendre, mais apparemment, ça ne rentre pas dans la tête des gens très facilement. Le canal, il a une pente. Si vous créez un bouchon à un endroit, en amont de cette pente, eh ben, ça va déborder, et puis en aval, on n'aura plus d'eau. C'est quand même une idée, ça. Il faut savoir que certains n'ont pas hésité à construire des murs dans leur canal. Alors ça, évidemment, c'est formellement interdit. Et normalement, c'est pénalisable. C'est des idées toutes simples. Pensez à votre voisin du dessus, pensez à votre voisin du dessous, et comme ça, vous comprendrez ce que vous avez à faire sur votre canal, quoi. De toute façon, ça relève aussi de la jurisprudence. Vous avez des droits à l'eau. Quand vous avez un canal qui traverse votre terrain, vous avez le droit de prendre de l'eau pour arroser votre terrain. En échange, vous avez des obligations. Ça s'appelle des servitudes. Et la seule servitude qu'il y ait, c'est de ne pas empêcher l'eau de s'écouler.
À Livron, je ne sais pas comment c'est par rapport à Die, puisque les canaux finissent par irriguer les terres agricoles et les jardins qui longent la Drôme. Est-ce qu'il y a une similitude aussi par rapport à Livron dans ce contexte ?
Bah, dans la mesure où vous me dites qu'il peut y avoir un problème d'alimentation en eau des canaux ou du canal de Die, oui, sans doute que la problématique est similaire, sauf que moi je ne peux pas dire que si le canal prend un débit d'eau de je ne sais pas combien dans la Méros, est-ce que ça va mettre en péril la vie de la Méros et la vie peut-être des petites usines ou des petites turbines qui tournent grâce à l'eau de la Méros, ça moi je suis incapable de vous le dire parce que je ne connais pas suffisamment le débit de la Méros et le débit réservé pour le canal. Mais effectivement, il peut y avoir ce genre de problème, oui. Et est-ce que les canaux dans la traversée de Die permettent également d'évacuer les eaux de pluie ? Ça, je ne le sais pas. Donc, vous voyez, je ne peux pas être très affirmative en vous disant la problématique est la même. Parce que je ne connais pas suffisamment la situation des canaux de Die et l'utilisation des canaux de Die.
Oh, je pense que c'était certainement aussi pour les mêmes utilisations au départ. Je ne connais pas les dates de création par contre des canaux, mais certaines, c'est sûr qu'il alimentait une bonne zone de Die sur les hauteurs de Die, sur d'anciennes usines comme des filatures, effectivement
ouais.
aussi, et puis même des usines de fabrication de meubles. Donc ça devait activer des scies, des choses comme
ça. Tout à fait, oui.
Voilà.
Oui.
Et puis au final, cette eau repartait certainement dans le même canal, peut-être. Et laisse déverser sur les terres où les gens pouvaient puiser l'eau pour arroser.
Oui, donc si les jardins sont encore très utilisés à Die, ce que je pense, enfin, en regardant en bas, là, oui, les jardins me semblent être bien entretenus, ce qui n'est pas toujours le cas à Livron. Eh ben, on compte sur l'eau du canal. Quand il n'y a plus d'eau dans le canal, ça attriste les jardiniers de voir leurs plantes périr, hein, leurs plantes ou leurs légumes d'ailleurs. Donc je crois qu'il ne faut pas prendre ça à la légère. Hein. Ce n'est pas parce que la législation a changé. Peut-être que la législation n'a pas pris en compte les usages anciens. Mais les usages anciens, il faut aussi les respecter. Ils sont respectables. On n'a pas pris de l'eau dans un canal pour embêter je ne sais pas qui. On a pris de l'eau parce qu'on en avait besoin. Et ce besoin, il faut l'analyser et il faut aussi le respecter. Ce qu'on oublie souvent.
Est-ce qu'il y a une structure qui s'est constituée autour de ce canal ? Je parle d'une association ou...
Ah bah oui.
Oui.
Jadis, il existait... une association des canaux livronnais qui avait pour mission, donc, on va dire, l'entretien et la bonne gestion. Bonne gestion, ça veut dire quelque chose, ça veut dire en bonne entente, ça veut dire le respect des différents usages. C'est ce qui est plus compliqué quand on parle de canaux, quand on parle de ce dont vous venez de parler, à savoir conflit d'usage. Quand on parle de l'usage de l'eau du canal et l'usage de l'eau de la Méros. Là, il y a conflit d'usage. L'eau du canal, il permet d'irriguer les jardins. Jadis, peut-être qu'il permettait de faire tourner des usines. Cet usage-là n'existe peut-être plus, mais l'usage irrigation, arrosage des jardins est maintenu. Cet usage, il est parfaitement respectable. Et on nous dit, non, parce que si on maintient de l'eau dans le canal, ça va faire baisser l'eau dans la Méros. Mais à quel titre préfère-t-on conserver une grande quantité d'eau dans la Méros plutôt que de la partager avec le canal ? Moi, je voudrais savoir quels sont les arguments qu'on défend. C'est ce que j'appelle les conflits d'usage. Et les conflits d'usage... ne peuvent pas se réduire à l'usage de la force.
Je reviens à ce problème de niveau de seuil minimal qui a été édicté par un décret européen il y a à peu près 3 ans.
Ou certainement pas. Il faut savoir que les directives européennes, elles ne s'appliquent pas comme ça sur le territoire français. Avant d'être applicables sur le territoire français, elles passent par un filtre. Et quel filtre ? Elles passent par la loi qui est faite par nos députés et par nos sénateurs. Donc, décret européen, ça n'existe pas. Par contre, que nos législateurs, à travers la loi sur l'eau, soient allés plus loin que les directives européennes, ça, je vous le confirme. Mais au point de délimiter la hauteur d'eau qu'il doit y avoir dans la Méros ou dans la Drôme, ça, non. Alors, bien sûr, ça se traduit peut-être par des hauteurs d'eau. À ma connaissance, ça ne se traduit pas comme ça. Ça se traduit en débit d'eau ou en quantité d'eau, mais pas en hauteur. Hein.
Donc ça, la version que je connais, c'est celle que vous niez donc. Et donc cette injonction oblige justement à la fermeture des canaux pour maintenir le niveau de la Méros. Voilà, et d'où le mécontentement, surtout en été, en période de sécheresse, des manques d'eau dans les jardins.
Oui, mais c'est exactement le même problème que celui que je posais tout à l'heure, à savoir le droit d'eau. Alors pour nous, dans la Drôme, encore une fois, je maintiens que pour moi, sur le plan juridique, il est absolument incontestable. En plus, ce droit d'eau qui remonte... au 12e, et qui a été confirmé ensuite par plusieurs jugements, ce droit d'eau, il a été confirmé il n'y a pas très longtemps, en 1860 ou quelque chose comme ça, par un tribunal d'appel, le tribunal d'appel de Grenoble, et qui confirmait en même temps que était maintenu le droit donc, d'utiliser, de puiser, de prendre de l'eau dans la rivière Drôme et nous confirmait le droit à tout usage de cette eau. Et ça aussi, c'est extrêmement important et c'est aussi ce qui nous est contesté. Et là, je suis très ferme. Et en plus, et je voulais terminer là-dessus, c'est en réponse aussi à une question que vous avez posée tout à l'heure. La commune de Livron, est maintenant propriétaire du canal des Moulins. Pas depuis longtemps, hein, depuis 1996. Mais à l'occasion de ce rachat par la commune de Livron du canal des Moulins, qui était jusque-là propriété de Rhône-Poulenc, puisque ça alimentait les grands moulins qui sont devenus Spezia, à cette occasion, les droits et jouissances de la commune de Livron pour ce canal et pour l'eau de ce canal, ont été confirmés.
Marie-Thérèse, en tout cas, je vous remercie d'être venue nous parler de ces canaux de Livron. Et est-ce que, occasionnellement, prochainement, vous serez sur le territoire d'Ivoire pour vous intéresser peut-être aux canaux de Die ?
Ça, je ne peux pas. Je navigue, enfin, pas en bateau, hein. Je fais pas de kayak non plus. Je navigue pas mal entre Livron et Saillant, mais je viens quand même rarement à Die, quoi. Donc la rivière jusqu'à Saillant, oui, ça va, je la connais un peu. Et les canaux jusqu'à Saillant aussi. Oui, parce qu'à l'origine, ce canal des Moulins, eh ben, c'est le canal qui prenait son eau dans le défilé de Saillant. Donc vous voyez... Il vient de bien au-delà d'Alex, quoi. C'est l'histoire de la soie, bien sûr, qu'on suit à travers ce canal. Moi, je voudrais simplement lire quelque chose. Je vous disais que je m'appuyais fortement sur des textes anciens. Je voulais lire le texte. Voilà ce que comporte l'acte de vente de ce canal des Moulins à la commune de Livron en 1996. Acte évidemment passé devant notaire. La commune de Livron a acheté à Rhône-Poulenc, je cite, « toutes les parcelles formant le canal des Moulins sur la commune de Livron, telles que ce bien existe, avec ses aisances, parties attenantes et dépendances, et les droits de toute nature qui y sont attachés, sans exception ni réserve. Et dans ces droits, je maintiens qu'on a les droits aux eaux de la Drôme et aux eaux du Moulin d'Alex, qui nous ont été signifiés, si j'ose dire, la première fois en 1412 et la deuxième fois en 1497. Donc antérieurement à l'ordonnance des moulins dont je parlais tout à l'heure, d'après laquelle le domaine public fluvial est incessible. Mais ce n'était pas le cas pour nous, puisque ces actes sont antérieurs à 1566.
Marie-Thérèse Michel Dansac, est-ce que vous avez votre travail visible sur Internet, par exemple ?
Oh ben non.
Non, pas du tout.
Non.
D'accord.
Non, je vous dis, il existait une association des canaux, bon, je n'ai pas terminé, dont les membres étaient tous ceux qui utilisaient les canaux. Donc, comme il n'y avait plus d'utilisateurs des canaux, ou plus beaucoup, cette association a été dissoute et elle a fusionné, ouais, elle a fusionné avec l'association du patrimoine livronnais, dont je suis la secrétaire, et au titre de laquelle je fais ce travail, quoi. Bon, enfin, je fais d'autres travaux aussi pour le patrimoine. Mais on a beaucoup travaillé, effectivement. Enfin, j'ai beaucoup travaillé sur les canaux. Je travaille sur l'histoire de Livron, puisqu'on est en train de préparer un ouvrage qui sera une collection des chroniques historiques écrites par notre historien local. Je pense que cet ouvrage sera publié cette année. Et on a fait un autre travail, mais pas du tout sur le même sujet, sur Livron en 1944. Voilà, sur c'était un assemblage de témoignages de personnes qui avaient vécu août 44 à Livron. Parce qu'en août 44 à Livron, le pont sur la Drôme a été détruit pour limiter l'avancée des troupes allemandes.
Eh bien... Marie-Thérèse, je vous souhaite une bonne soirée.
Merci. Interview.
Interview.
Okay, the bird.
Interview. L'interview du jour.